character through our juvenile delinquency of today.
Bonjour à tous pour cette 29e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter une longue rencontre avec Éric Degout, le directeur du Centre d'art Laitanerie à Emilly, commune qui fait partie de l'agglomération de Montargis. Notre échange ne va pas tant porter sur les expositions en cours, que je ne peux que vous inviter bien sûr à aller visiter, que sur l'incroyable aventure de la création de ce centre d'art dans cette commune moyenne. Ce centre a reçu le label de Centre d'art contemporain d'intérêt national le 8 avril 2022 par le ministère de la Culture, marquant ainsi sa reconnaissance pour la très grande qualité de sa programmation. Dans notre région Centre-Val de Loire, il n'existe que deux centres d'art labellisés, l'un à Tours, le CCC, et l'autre dont nous allons parler. Éric Degout, son directeur, nous enseigne de cette aventure, mais plus encore de ses méthodes de travail, de la construction de sa programmation autour de la saison, de son accompagnement des artistes et des commissaires. Il nous parle de la notion d'apparentement, fait de s'unir ou d'être uni par des liens de parenté à une famille, à une classe sociale, ici bien entendu d'être uni par le même enjeu de la création artistique, de la notion d'émergence et de l'importance du bâtiment et de ses potentialités comme des fils directeurs de son action. Cette année, la saison 7 s'intitule « Les registres du jeu » et court jusqu'au 23 août 2023. Vous pourrez voir l'exposition collective « We Are » de Samy Engrammeur et de Guillaume Lasserre dans la Grande Halle, l'exposition « Quart de nuit » de Méris Angioletti dans la Galerie Haute et l'exposition « À combien de pas dormez-vous de l'eau » de Natalia Jem Cortez dans la Verrière et la Petite Galerie. Cette exposition fait suite à une résidence de 6 mois à Amiens. Pour l'entrée de l'été, le collectif Clara occupera la Grande Halle, Hélène Duprat la Galerie Haute et la Petite Galerie et Victor Cordom la Verrière. Le mercredi 5 avril 2023, marquez bien cette date dans vos agendas, Méris Angioletti vous propose une veillée lecture à partir de 20h, un rendez-vous nocturne proposé pendant la nuit de pleine lune, rythmé par des lectures et des rencontres au clair de lune. Notre rencontre avec Éric Degout a eu lieu dans l'accueil des tanneries, dans un lieu vivant dont vous pourrez entendre de temps en temps en arrière-plan sonore les bruits de son activité. La parole d'Éric Degout occupera tout l'espace de l'émission, dont le rythme de la voix nous dispensera de musique.
Bonjour Eric, de goût de m'accueillir ici dans ta maison.
Bonjour
on
Stéphane.
est dans l'accueil, n'est-ce pas, des tanneries à Amilly, un projet qui date maintenant depuis pas mal d'années. Le projet lui-même, c'est 7 ans. La fabrication du projet, c'est 10 ans avant, donc ça fait 17 ans, 20
oui,
ans
à peu près.
Que ce projet a été, on va dire, quand même porté par un maire très volontaire et une équipe municipale aussi qui l'a beaucoup accompagné. Et puis un maire qui avance pas à pas et qui a construit pas à pas ce projet comme tant d'autres dans cette commune. Alors toi, tu es arrivé à un moment où c'était l'ouverture de ce lieu.
Elle se préparait en fait, c'était juste
un peu préparait. Avant. C'est vrai que c'était un an avant. Tu as été celui qui a porté, défini, enregistré toute l'aventure de ce lieu. Alors, peux-tu un peu nous dire comment ça a commencé pour toi, par exemple, comment tu as pris cette aventure au début et en quoi ce démarrage avait de passionnant, de pas passionnant ou de difficile?
Alors, en fait, je partais pas de très loin parce que j'étais basé à l'époque en Île-de-France. Donc c'est juste à une heure de Montargis, hein. Donc on est dans une relative proximité géographique. Et je dirigeais, j'avais créé un centre d'art donc du côté de Chelles, qui est dans la banlieue est de Paris, dans des anciennes églises où on avait cette espèce d'impression à l'époque de ce que je considérais comme une sorte de grande halle dans laquelle les artistes étaient invités à penser des gestes et des créations spécifiquement pour l'architecture, le lieu, etc. Et quand j'ai vu passer cette annonce, en fait, je me suis un peu fasciné focalisé sur le bâtiment et sur les promesses de démesure, en fait, qu'il portait en lui-même. Et je suis venu, pour le jour de l'entretien, en fait, pour candidater. Je suis venu d'abord visiter l'espace. Alors, le centre d'art était à peine en travaux. Le bâtiment avait été débarrassé de tous ses scories, planchers, plafonds, etc. Il était un peu ouvert aux quatre vents. Il y avait quelques machines qui étaient là, parce que le projet d'aménagement allait débuter, il était quand même d'ampleur, mais rien n'était engagé en fait. Et j'ai eu la possibilité, un peu comme Bruno Godin d'ailleurs à l'époque, qui est l'architecte qui a aménagé le lieu, de le découvrir dans cet état brut, de laisser aller comme ça, de friche un peu ouverte et traversée de toutes parts par la lumière,
le vent,
la nature aussi, hein, parce qu'on percevait le jardin qui était lui aussi un peu... environnant tout autour. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment laissé supposer qu'on pouvait y faire des choses singulières et particulières. En même temps, je prenais la mesure du coup de l'étape à franchir parce que rien n'était fait. Et là, j'allais me positionner pour y développer un projet. Donc, dans la continuité du premier projet que j'avais pensé, dans un effet comme ça décuplé, avec cette singularité d'avoir sur un même site plusieurs espaces et puis dans le bâtiment principal, cette ancienne tannerie aussi, des possibilités de positionnement des lieux différents. C'était un remarquable outil de travail potentiel, ce qu'il est devenu totalement aujourd'hui.
Et est-ce que la mairie t'a laissé libre cours dans la façon de le construire ou quelles sont un peu les attentes qu'elle pouvait en avoir ou les objectifs qu'elle se donnait, même si ces objectifs évoluent au fil du temps, aussi bien les siens d'ailleurs que ceux des commanditaires?
Alors en fait, j'ai très vite compris qu'un lieu comme ça, il était habité de plein de projets divers. Donc il y avait le projet de plusieurs personnes en fait qui pouvaient parcourir le lieu, mais je crois que c'est la force même de l'espace en fait de suggérer des possibilités d'usage, des formes artistiques, des formes de présence, etc. Et donc il y avait des attentes, ça c'est clair, il y avait des projections, ça c'est clair, et ce qui a été déterminant pour moi, ça a été d'essayer de construire le projet par rapport à l'enjeu architectural qu'il présentait en fait, et d'avancer, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure en propos du maire, pas à pas, c'est-à-dire à démontrer par chaque exposition, par chaque projet, quelle était la force, quelle était la dynamique qu'on pouvait traduire à travers un espace comme celui-ci. Historiquement, on est sur une friche industrielle, c'est une plateforme de production, et l'idée que cette plateforme puisse être associée à une production d'un geste contemporain, une pratique artistique spécifique liée aux espaces, aux lieux, aux couleurs, aux matières, aux sonorités même du bâtiment, me semblait à préserver de manière assez forte. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait révéler le lieu, c'était bien le geste de l'artiste, plus qu'un projet préconçu qui allait connoter le lieu d'une réalité. Et c'est vraiment ce qui m'a conduit sur ces premières années jusqu'à construire aujourd'hui une identité d'étainerie qui me semble assez affirmée.
Donc en fait, pour toi, le lieu a été premier. Logiquement, premier dans la réflexion, premier dans toute l'organisation de la structuration, premier, en fait.
Oui, parce que c'est vraiment, il faut, quand on arrive ici sur le site, on dépose en fait plein de choses. On arrive face à la façade du bâtiment, on se projette sur l'espace, il y a quatre bâtiments répartis sur le site même. Il y a cette grande cathédrale, c'est le terme qu'utilise Bruno Godin pour en parler parfois, qui est l'ancien bâtiment industriel, hein, cette friche industrielle qui était des anciennes tanneries, où tout résonnait à l'époque, hein, et où encore aujourd'hui le lieu résonne parfois de la nécessité de bien l'habiter. Et je me suis toujours essayé de me positionner dans la continuité de ce que pouvait être l'attente des artistes arrivant ici, qui sont à la fois invités à s'y projeter et en même temps qui doivent vraiment dialoguer avec l'espace pour ne pas se laisser submerger par lui. Donc oui, il oriente quand même beaucoup la manière
Parce qu'en fait, il était déjà pensé, quasiment construit, les plans étaient déjà faits. Donc en fait, tu as pris un lieu qui était déjà, en tout cas, pas dans tout, je suppose, mais dans une partie des choses qui étaient déjà conçues.
Oui, d'une certaine manière, mais conçu avec beaucoup d'intelligence. Ça, c'est vraiment le travail de Bruno Godin, c'est-à-dire que la moitié des espaces, si ce n'est pas un peu plus, ne sont pas domestiqués. C'est-à-dire que l'architecte n'a pas eu la volonté de tout plaquer blanc, de tout maîtriser totalement. Donc, on a des espaces qui sont des vrais espaces d'exposition. Quand je dis vrais, c'est pas du tout pour dire que les autres ne le sont pas, mais qui correspondent peut-être à des attentes, le cube blanc, la salle de musée. Oui, classique. On est dans des espaces très classiques où l'accrochage se détermine et on peut jouer de scénographie d'ailleurs, qui sont de type muséographique par rapport aux expositions qu'on peut y présenter. Et puis, il y a ces grands espaces non domestiqués que sont la grande halle et la verrière, qui sont aussi confortables qu'inconfortables. C'est-à-dire que si on arrive à entamer en effet un beau dialogue avec eux, on fait des choses magnifiques. Mais pour ça, il faut un peu se coltiner cette réalité, ce dialogue. Donc, y avait cette permissivité que permettait l'aménagement de Bruno Godin, qui laissait la place à la présence de l'artiste. Et il le donnait d'ailleurs comme une signification que moi je trouvais intéressante parce qu'elle résonnait vraiment avec le lieu avec lequel j'avais travaillé préalablement à ma venue aux Tanneries, où il y avait eu aussi une personnalité invitée, c'était Martin Zekeli qui avait été choisi pour aménager le lieu et qui avait posé sa participation au principe qu'il ne ferait pas œuvre sur œuvre. Et Bruno Godin, quand la première fois que je l'ai rencontré, a quasiment eu les mêmes mots. Ne pas habiter les espaces au détriment des artistes qui allaient venir derrière. Il y avait ce même principe.
En fait, c'est à la fois c'est généreux de leur part et à la fois c'est, comme tu l'as dit, et ça je pense, je suis tout à fait en accord avec ça, et que c'est des lieux qui du coup, du fait qu'ils soient bruts, libres, on peut être ni contre ni pour, on n'a qu'à être pour avec.
Voilà, exactement.
Et parfois c'est compliqué. Alors après, ce lieu d'étainerie, donc t'as eu une longue période de préparation, de programmation,
une année de préparation. Le chantier avait pris un peu de retard. Finalement, la solidité du bâtiment, toute relative parce qu'il est très très souple, la nature des bétons au moment où ils ont commencé à vraiment investir le lieu, ont montré qu'ils étaient en bon état. Et donc le projet d'aménagement a pu se réaliser finalement dans un temps, on parle quand même d'un établissement qui fait 3000 m² de surface d'exposition. Hein, donc
c'est pas petit.
Et finalement, il y a eu très peu de retard. Et donc, il a fallu très vite passer dans la mise en œuvre du projet. Et les premières invitations ont été vraiment pour démontrer finalement toute la force qu'un projet comme celui-ci pouvait porter. De par le lieu dans lequel il se situait. Premier artiste invité, Wesley Morris, était un artiste spécialiste en fait de ces hétérotopies que sont les musées dans lesquels il intervient, qu'il retourne un peu, qu'il ouvre les murs et les espaces, toutes les typologies habituelles de monstration pour travailler après avec. Et le premier projet qu'il a réalisé ici qui s'appelait Scene of Engagement, était vraiment ce principe-là. C'était pour montrer tout le potentiel et tout l'intérêt d'un lieu comme celui-ci à devenir un lieu et un espace de création.
Oui, donc toujours la même idée. Alors le temps a passé, les choses se sont construites, saison après saison, les choses avancent. Et après, il est intéressant, surtout déjà après 7 ans quand même, septième saison de programmation, de voir un peu comment réagit la commune par rapport à ce qu'elle pensait avant. Est-ce que ça correspond ou est-ce que ça correspond à ses attentes qu'elle avait eues, ses rêves, ou au contraire, elle s'est fait en disant bah oui, c'est vraiment intéressant, j'aurais jamais pensé que ça puisse être comme ça. Et penser aussi sur l'agglo, je ne sais pas s'il y a eu des participations, j'ai vu qu'il y avait des participations avec le musée à un moment.
Oui, il y a des choses,
donc, qui se font.
Historiquement parlant, et pour répondre à ta première question, entre les attentes et l'effet de surprise que pouvait porter le projet, les deux se sont réalisés en fait. Quand j'évoquais que je suis arrivé, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait des états de projection sur ce qui pouvait être des formes d'usage, des formes d'orientation, de programmation artistique, etc. Il y a eu ces réalités-là qui se sont aussi nourries de la diversité des propositions que moi je faisais. En fait, le centre d'art s'est construit aussi sur une histoire locale, où la présence de l'art contemporain, la présence d'une programmation d'art contemporain au sein même de la ville d'Abilly était déjà établie depuis une quinzaine d'années par rapport en lien notamment avec l'engagement d'une association qui s'appelait La Gare, qui était porteuse d'initiatives en termes d'exposition, de programmation. Le site même des tanneries, depuis 2009, chaque été, était l'enjeu d'une exposition dans les friches même, dans préfiguratrice aussi, de l'économie générale du projet, qui a permis à la ville petit à petit à adopter, à maîtriser cette idée d'en faire un lieu de création dédié aux arts visuels et à l'art contemporain. Donc ça, c'était des choses qui ont mûri petit à petit. Donc le centre d'art, il n'arrivait pas par hasard, en fait. Il n'était que la continuité d'une histoire qui était déjà entamée. Mais cette continuité d'histoire, elle s'est faite en investissant, finalement, des épisodes nouveaux, avec des personnages nouveaux, et en venant étoffer cette grande diversité de propositions que permet le site. Comme je le disais tout à l'heure, c'est 4 espaces d'exposition en un seul centre d'art. C'est presque 4 centres d'art dans un centre d'art. Et donc, ça nous permet, et ça permet pour les commissaires invités à faire des programmations qui jouent des expositions, des séquences de présence entre les artistes, des projets, des univers différents. Donc, tout ça s'est fait peu à peu. Ce qui a convaincu aussi la ville, c'est, au-delà de l'aspect artistique, toute la structuration culturelle, en fait, que porte un établissement comme celui-ci. La force qui est celle des tanneries, c'est d'avoir su construire une équipe qui fait vivre les expositions, qui va à la rencontre des territoires, qui établit avec elle des partenariats, des formes de complicité, à la fois en termes d'hospitalité, d'accueil des artistes qui peuvent y développer des résidences, mais aussi en associant, par exemple, des publics à des chantiers de réalisation d'expositions avec des établissements de formation sur lesquels on intervient d'une manière très récurrente. Ça a été aussi le choix de la ville de positionner au sein même du centre d'art contemporain l'école de pratique amateur, l'école d'art plastique de la ville d'Amilly, qui fait que la pratique amateur côtoie la pratique professionnelle. Ça, c'est des réalités de liens sociaux très très forts qui font qu'aujourd'hui le centre d'art a un vrai ancrage territorial, local, très très affirmé.
Grâce à tous ces partenariats, fait aussi bien avec tous les autres acteurs de la ville,
la médiathèque, et notamment l'agglomération, qui est apparue. Peut-être pas forcément au début du projet, qui était un peu plus dubitatif sur, c'est vraiment la volonté du maire d'Amilly qui a supposé ce projet et créé les conditions, et c'est la ville qui a porté en elle-même ce projet. Aujourd'hui, l'ensemble des partenaires territoriaux, on a toute la strate qui est représentée auprès des tanneries, l'État, la région, le département, l'agglomération, la ville. Tout le monde est fédéré sur ce projet, c'est ce qui a amené donc à sa labellisation au printemps dernier, qui est aussi la fin d'une histoire et le début d'un nouveau cycle qui s'ouvre, encore une fois, dans cet esprit de continuité d'une histoire entamée il y a très longtemps.
Et alors, justement, ce label, peut-être expliquer ce qu'il est, en quoi il est important, en fait, pour un lieu comme ici.
Créer une temporalité qui est celle d'un projet pluriannuel. C'est important. On a aujourd'hui une représentation des partenaires au sein du projet d'étainerie qui fait qu'on crée les conditions de permanence, de continuité et une visibilité sur plusieurs années qui est nécessaire pour
et
mener
puis, et puis une reconnaissance aussi.
Et une reconnaissance,
et une reconnaissance du travail fait et, tout du, à fait et du niveau du travail fait.
Tout à fait.
Puisque en fait, dans cette région Centre-Val de Loire, il y a très peu de centres d'art labellisés.
Il y en a deux. Il y a le Centre de création contemporaine à Tours et les tanneries qui sont vertes depuis 2016, Centre de création contemporaine qui a plus de 30 ans d'existence. Et c'est aussi ce qui montre la diversité et la force, peut-être, du secteur de l'art contemporain en France, c'est qu'on est sur une histoire encore récente, mais une vraie histoire qui est constituée sur plusieurs décennies, et il y a encore des espaces qui s'ouvrent, des nouveaux lieux qui donnent à voir cette création.
Ça, c'est l'exemple fantastique de ce lieu-ci, et d'autant plus fantastique que quand même, il se compte sur les doigts de la main, comme tu l'as dit, sur une région quand même qui est très importante. Donc c'est quand même une chose très heureuse que ce label ait pu amplifier en fait ce mécanisme des partenariats. Et est-ce que ces partenariats aussi se sont déportés un peu vers la région de temps en temps au gré des occasions que offrent par exemple les expositions? Là, le commissariat de Ouillard fait appel quand même au monde tourangeau
oui,
en
tout
partie.
À fait.
Donc
ouais.
Tout ça, ouais. C'est quand même peut-être des enjeux.
Ça fait partie d'un établissement labellisé, c'est qu'il a ce qu'on appelle un territoire de responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit à la fois être attentif, être inscrit sur un plan local, régional, mais aussi national et international. Ça fait partie de notre cahier des charges. On doit être attentif à travailler ces conditions. Les artistes qui sont programmés aux tanneries ne le sont pas en fonction de leur provenance, mais de la pertinence de leur engagement et de la représentation qu'ils ont dans ce qui fait la diversité de la création d'aujourd'hui. J'ai plaisir, moi, souvent à mêler comme ça des artistes qui sont inscrits en région et puis des artistes qui viennent de l'étranger et qui sont en situation d'implantation au niveau national pour justement montrer cette présence de l'art contemporain. Elle est partout, y compris en région centre. Et même s'il y a peu de lieux de diffusion en région centre, il y a quand même trois écoles d'art, il y a quand même un FRAC, il y a quand même une histoire de l'art contemporain qui n'est pas neutre, sur laquelle voilà, on peut aussi construire des partenariats et des mobilités du coup aussi pour les publics.
Alors justement, en revenant sur les publics, après 7 ans, quel type de bilan tu pourrais faire, par exemple, donc comme tu l'as dit, l'association Agar avait déjà un peu fédéré un certain nombre d'amateurs. Et puis, cette association avait fait aussi des approches avec le milieu scolaire. Donc, c'est des choses que tu as dû, quelque part, amplifier. Mais aussi, la question du regard d'un public qui est aussi le public des élus, comment ils réagissent, et puis le grand public. Est-ce que le public ici reste encore relativement local, ou est-ce qu'il draine sur un territoire plus vaste, celui de la région au moins, et peut-être du côté de l'Essonne aussi, parce qu'il y a d'autres...
Tout à fait.
Donc quel est le bilan que tu pourrais tirer après quand même 7 ans Alors, 7 ans, ça permet quand même de voir un peu
les
typologies de public qu'on a réussi à fidéliser.
On mène en effet un travail d'identification, d'analyse de la fréquentation depuis l'ouverture, et on a aujourd'hui un paysage assez précis sur lequel je vais revenir. Cette séquence est aussi une séquence singulière, parce que sur ces 6 ou 7 années, il y a eu quand même 2 années de crise sanitaire.
Ah oui.
Voilà, qui est venu un peu modifier ces perspectives-là, et qui a pas mal changé, et qui nous invite aujourd'hui à multiplier nos efforts pour inciter le public à retrouver peut-être des pratiques culturelles, en tout cas, qui ont été un peu émoussées. Je pense qu'il y a vraiment eu des ruptures d'usage. Et donc ça a beaucoup impacté. Et aujourd'hui, l'équipe des tanneries travaille beaucoup à essayer et à travailler tout au long du Covid, d'ailleurs, à multiplier des formes nouvelles, finalement, de proximité avec les publics. Donc, sur la période de Covid, d'enfermement, on était même sur des principes de transfert à distance, de gestion du distanciel, comme on a pu dire à l'époque, en proposant des formes vidéographiques, des visites en ligne, des rencontres en ligne avec des artistes, des projets comme ça.
Parle-moi de ça. Comment vous faites une rencontre en ligne avec un artiste?
Alors, en fait, je vais te donner un exemple très concret. Ouais, on avait programmé Lucie Georges-Horta, une très, très belle installation, grande installation dans la Grande Halle, au moment où
la crise sanitaire est arrivée. Donc l'exposition était magnifique, elle était appelée à recevoir beaucoup de public. Évidemment, on a subi les obligations de fermeture administrative d'une manière assez catastrophique. Mais on a rebondi assez vite de deux manières. La première, c'est Lucie et Georges Horta qui ont travaillé à ça, puisqu'ils ont fait évoluer finalement l'exposition sur la période, y compris dans sa présentation formelle dans la galerie, ce qui veut dire que le public qui a eu la chance de venir au tout début de l'exposition et puis qui est retourné à la fin de l'exposition, qui avait été prolongée de quelques mois, a vu la même exposition, mais avec des modifications qui étaient quand même choisies et voulues par les artistes. Et entre-temps, on a créé les conditions justement pour que, autour de cette exposition, on met en place un projet. Alors, c'était un projet éducatif en direction des publics captifs, mais qui, pour l'occasion, étaient captifs chez eux, hein, puisque les enfants n'étaient plus dans les écoles. Et donc, on a monté un projet qui s'appelait l'École Horta, où on a incité les classes à s'inscrire dans la dynamique du projet de Lucie et Georges Horta à travers des grands dessins qu'eux-mêmes avaient produits et qu'ils mettaient en situation de relation avec des publics à travers un principe de mise en couleur de ces dessins selon des codes propres à Lucie et Georges Horta qui leur permettaient notamment d'aborder la question de la fragilité du vivant, des écosystèmes, etc. D'identifier aussi des matériaux, des objets qui pouvaient être aussi porteurs d'un poids climatique de fabrication sur lesquels ils souhaitaient nous alerter et alerter les publics avec lesquels ils travaillaient. Donc, on a repris ces outils qui étaient propres à Lucie et Georges Horta et on les a diffusés sur l'ensemble de la région, à distance, à travers des mails, à travers des appels. On a initié les écoles, les collèges, les lycées à ces présences-là. Ils ont accepté de recevoir un kit qui comportait donc des grands tirages de dessins qu'on avait réalisés, qui étaient mis à leur disposition. Et ils avaient un principe de mise en couleur qu'ils pouvaient travailler en eux-mêmes en fonction de la classe, discuter des codes, ce que ça voulait dire. Et chacun a produit son image. On a 36 classes comme ça sur l'ensemble du territoire régional. On a été du côté de Tours, du côté de Châteauroux, évidemment en local ici, parce que nos écoles aux alentours étaient sensibilisées de manière plus prégnante sur nos actions. Ça nous a permis de rencontrer des publics qu'on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion d'intéresser, de par un éloignement quand même géographique qui n'est pas simple, hein, traverser la région centre, c'est
pas
quand
simple,
même
surtout
un voyage.
Quand on est sur un petit bout. Voilà. Hein.
On est tout un coin, tout dans un coin. Et on a eu un très très bon retour, on a pu développer des choses. Et dans ce cadre-là, on a fait une exposition de ces affiches qui nous ont été réadressées par courrier au sein même de l'exposition de Lucie et Georges Horta. Et on a fait un événement où Lucie et Georges étaient là et on a pu filmer en fait les artistes et les classes. Donc Lucie et Georges avaient sur un petit écran comme le tien, portable, toutes plein de petites carrés comme ça, où il y avait chaque fois une salle de classe qui était là, et il y a eu un échange qui a pu se faire. Bah, c'était assez, assez spontané, c'était assez joyeux en fait d'avoir cette réalité-là.
Ce retour magnifique, oui, je trouve.
Et donc là, il a vraiment fallu construire des formes nouvelles de médiation. On a réalisé, c'est à cette époque-là aussi qu'on a initié ce qui caractérise aussi notre... la restitution en fait de nos expositions, une sorte de bibliothèque comme ça de vidéos d'exposition, d'entretien d'artistes qu'on a initié à ce moment-là et qu'on continue d'ailleurs de produire pour chaque exposition et qu'on peut découvrir en allant sur le site du Centre d'art des Tanneries. Donc cette période de cloisonnement, cette période de suspension d'usage
a amené
d'autres usages et aussi d'autres publics. Ouais. Alors aujourd'hui, on essaye de maintenir les deux, c'est-à-dire on reprend le chemin vers nos premiers publics qu'il faut en effet réactiver. Ouais. En termes de physionomie de public, les dernières études complètes 2019-2020, avant que
y ait le changement,
la période de Covid, et qui se reconfirme à nouveau sur les derniers chiffres de fréquentation en 2022, montre qu'on a globalement 60% de notre public, en termes de grand public, qui vient, et public éducatif associé, qui vient à moins de 30 km du centre d'art, donc c'est-à-dire dans un rapport de proximité encore facilité. Ensuite, on a maintenant presque 20%, parfois plus sur certaines périodes, notamment l'été, un public qui vient de l'Île-de-France, parce qu'en effet, on est à une heure de Paris. On a tout un public, alors là c'est plutôt un public de connaisseurs, un public qui a identifié les tanneries et ça représente presque 20% de la fréquentation du grand public, c'est pas mal. Et du coup c'est une autre physionomie bien évidemment de public. Après le public régional, constitue à peu près une dizaine de pourcents de fréquentation. Et le reste, c'est du public qui vient de l'international, de l'ensemble, de France, voilà, de passage de France, au gré de ces, ouais, de ces mobilités tout au long, ouais, de l'année.
Donc, en fait, plus de gens de Paris, en fait, que de région. Pour en finir avec le public et sur la présentation de la structure, sur le public, je veux dire, ce qu'on appelle le grand public, est-ce que ce public-là, il augmente ?
Alors, il reste relativement stable, puisqu'on n'a pas vraiment varié en termes de répartition. On reste toujours sur 60% à peu près du public qui vient ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tanneries, c'est l'établissement culturel qui est ouvert toute l'année. Mmh. On a une très grande amplitude d'ouverture. On est quasiment ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Tous les dimanches, on est ouvert. Tous les samedis, on est ouvert. Et que ça devient, de par sa physionomie, parce qu'il y a un parc aussi aux alentours, un lieu de promenade, on est sur des voies d'itinérance, liaison douce, promenade à pied, pas très loin du canal, etc. C'est un lieu de promenade. Mmh. Et donc, pour vraiment les publics locaux, c'est l'occasion de venir faire un tour aux tanneries, hein, le dimanche, c'est le lieu d'un promenade, c'est la possibilité d'y découvrir quand même des choses un peu différentes. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même une programmation assez soutenue, avec un rythme de renouvellement assez fort. Donc il y a une vraie possibilité de trouver là un espace d'animation, on va dire, au sens tout à fait positif du terme, pour des mobilités familiales, etc. Ensuite, on a quand même une participation de ce qu'on appelle, nous, les primo-visiteurs, qui reste quand même assez important, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens, y compris en local, qui découvrent le centre d'art. Ça, on sait que construire une histoire auprès du public, ça prend quelques temps.
Très long.
Voilà. Ouais. Donc, c'est en train de se faire. Et donc, on crée ce qu'on appelle, nous aussi, des revenants. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes viennent et reviennent aux tanneries parce que ça fait, justement, maintenant, partie d'une histoire avec laquelle ils se sont construits. Mmh. Alors, évidemment, c'est un public qui n'est pas forcément connaisseur. Évidemment, ils ne sont pas forcément convaincus par ce qu'ils voient systématiquement. La force du lieu, c'est de proposer quatre espaces d'exposition. Mmh. Il y a forcément, sur les quatre espaces d'exposition, des choses qui plaisent et qui ne plaisent pas. Donc, la visite n'est pas vaine. Il y a forcément des rencontres qui se font, c'est des découvertes qui se font pour les publics et le grand public qui vient ici.
Ça va me permettre de passer sur la structuration, en tout cas de la programmation. On pourrait dire qu'il y a une question à la fois de variété des lieux, bien identifiés, ça c'est un important, et glissement d'un lieu à l'autre, parce que j'ai vu qu'à certains moments, des expositions duraient un peu plus longtemps dans un lieu, glissaient sur l'autre. En même temps, on est sous une saison qui est sur la base, en fait, d'une année d'enseignement. Hein.
Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle une saison artistique, hein, qui commence en septembre
classique,
et qui termine en fin de l'été.
Saison artistique. Voilà. En fait, donc, on voit que après ces 7 années, il y a une vraie structuration, vraiment structuration de la programmation, quant au lieu, mais aussi à la pensée de la saison. Pour chaque saison, tu ouvres sur une sorte de thématique assez large, mais une thématique qui permet de réunir des expositions très diverses formellement, très diverses aussi en contenu, mais sur une idée de fil qu'on peut tisser d'un lieu, d'une question à une autre, ou on peut, d'une œuvre à une autre, on peut utiliser ce fil, en fait, pour les agréger. On voit aussi que la programmation, au début, les titres étaient plus simples, ils deviennent de plus en plus raffinés, je trouve, hein, parce que le registre des jeux, c'est un joli titre. La saison qui s'appelait Display Off Offline était aussi un mot assez fin qui mettait l'accent. Alors, si on prend ces deux titres, on voit bien que les deux vont fixer plutôt une orientation, avoir des choses d'une certaine façon, mais en fait, elles sont assez similaires, en fait, hein. Sauf que de l'une, on va vers quelque chose qui est plus de l'opérationnel et de l'autre qui est plus des enjeux de participation, quelque part, du rapport entre la personne et l'œuvre, hein, puisque le registre des jeux, c'est ça, c'est quel jeu on propose et on va jouer, on va donc participer. Ça induit certainement aussi les choix qui s'opèrent dans la programmation.
En fait... Évidemment, pour penser justement la programmation dans ces espaces, si on considère que le lieu va être important dans la détermination des formes qui vont s'y produire, il faut travailler très très en amont, de manière à pouvoir avoir déjà des retours sur ce qui pourrait être des états de présence, formant saison en fait. Mon rôle actuellement, c'est de rencontrer beaucoup d'artistes, de poser la possibilité d'une participation, de leurs gestes à ce qui ferait sens du projet artistique, à ce qui ferait peut-être cohérence au sein d'une saison artistique. Alors, c'est vrai que la saison artistique et l'intitulé de chaque saison, c'est un prétexte, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient faire récit, proposer récit. C'est construire de l'image. Tout à l'heure, on parlait de la fréquentation, on parlait des publics qui revenaient, finalement. Quand on vient et revient dans un lieu, on se fait une histoire de ce lieu-là, qui est très personnelle, mais qui est tout à fait constitutive de l'histoire du lieu. On n'a pas prétention à convaincre quiconque sur une forme unitaire de la création d'aujourd'hui, de la création contemporaine. On joue de la diversité, on joue d'un commun partagé. Chacun a un bout de vérité dans ce rapport à l'œuvre, dans ce rapport à ce qui fait art ou ce qui n'en fait pas. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en jeu, de mettre en scène à travers la série de nos saisons successives depuis l'ouverture en 2016. Donc pour construire les saisons, en fait, elles se constituent de par le retour que me font les artistes dans leur première impressions, dans leur première motivation, dans leur premier intérêt. Et moi, j'y perçois en effet des ensembles, des éléments qui, par un subtil jeu d'apparentement, peuvent faire une mise en récit possible. Et du coup, se regroupent à ce moment-là.
En fait, c'est le retour que te font les artistes sur les idées qu'ils ont par rapport au lieu, qui, en fonction bien sûr de la puissance, je pense, des uns et des autres, dans leur raisonnement par rapport au lieu, c'est-à-dire leur implication par rapport au lieu, qui peut être très fort pour un artiste, moins fort pour d'autres, enfin, tout ça c'est très logique, hein, qui t'éveille sur une piste de regard, de narration de la prochaine saison. Parce qu'en fait, ce n'est pas un rapport définitoire, comme tu l'as dit, ni sur les lieux, ni sur la variété des propositions, mais c'est plutôt un point focal sur lequel on va regarder un des aspects plus que l'autre, en fait, ou un des aspects qu'on va ouvrir finalement pour celui qui vient, qui va être différent de celui de la précédente saison.
Oui, tout à fait. Après, ce que j'aime à travers cette impression, cette remontée d'impression que me donnent les artistes ou que donnent les artistes, c'est que justement, leur production ne devient pas l'illustration d'un principe préétabli. Ce qui serait fortement dommageable et contraire à l'esprit, à la philosophie d'un espace comme celui-ci. Les tanneries, ce sont des plateformes de langage, ce sont des plateformes de production, de création, ce sont des jeux qui suscitent la mise en œuvre et qui en aucun cas la commandent. Donc on est bien dans ce remonté finalement de visibilité que l'artiste donne et qui nous fait, nous, les premiers spectateurs, les premiers regardeurs, qui eux-mêmes vont être confrontés à cette même sensation, cette même expérience presque phénoménologique qui fait que face à des formes particulières, singulières, qui sont liées à la création d'aujourd'hui, sur lesquelles on n'a pas forcément de clé de lecture, sur lesquelles on n'est pas forcément dans un rapport de reconnaissance, comme on peut l'être au musée, où on arrive à situer dans l'histoire de l'art telle forme de peinture, telle forme de sculpture. Là, on est vraiment vers la signification d'une altérité qui se manifeste et sur laquelle on se met en situation de rencontre, en situation d'hospitalité concernant l'équipe des tanneries. Donc il y a vraiment ce jeu de construction de récit qui se met en place et qui se veut partager sous cette forme-là. Donc oui, l'intitulé de saison, il est la résultante plutôt que l'origine du choix artistique. Et ce faisant, il est une première trame de lecture possible de la diversité des présences qui vont en effet caractériser une séquence qui va de septembre à septembre chaque année.
Quand on a discuté, on parlait du mot glissement. Là, s'opère un glissement, en fait, entre l'artiste, la réponse, ta réponse à toi, puis ensuite toi, la mise en œuvre, en fait, d'une proposition aux visiteurs, au pluriel. Donc, c'est des choses qui glissent les unes sur les autres au fur et à mesure.
Oui, oui. Alors, le glissement, il est intéressant parce qu'on est dans une pratique langagière, en fait. On le sait que dans le rapport au langage, dans l'échange, en fait, il y a des glissements qui font que se construit le rapport au sens. C'est là qu'on, qu'on perçoit des réalités, qui a un rapport à l'interprétation, qui est peut-être une forme de glissement entre un premier message formulé et la manière dont on va le recevoir. Moi, j'avoue que ce rapport au glissement, je le rapproche de plus en plus à ce qui est un principe d'apparentement. Je trouve que l'apparentement est une notion qui est vraiment intéressante. Alors, je la puise en plus chez quelqu'un qui, pour moi, a toujours compté dans le rapport à être responsable et commissaire, responsable d'une programmation respectable, c'est Christian Bernard, qui pendant 20 ans ou 30 ans l'a développé au même camp. L'apparentement, c'est comment on fait vivre une collection, comment on fait vivre une programmation en associant finalement des temps et des moments et des formes qui n'ont pas forcément d'immédiateté à dialoguer les unes avec les autres. C'est le jeu du regardeur, c'est le jeu du spectateur, c'est le jeu du commissaire, c'est aussi le jeu de l'artiste qui s'inscrit dans cette logique-là, qui fait que, par l'apparentement, se met en regard les choses. Et cette mise en regard, c'est fondamentalement ce que porte un projet de centre d'art. On est un lieu de monstration, on est un lieu de diffusion, on est un lieu de création du regard, d'un regard croisé, entre celui de l'artiste sur sa production, mais aussi sur l'histoire qui vient en amont de sa production et peut-être celle qui viendra ensuite de sa production, et puis le regardeur qui lui-même est porteur de ses propres histoires, qu'elle soit savante, s'il a ou la pas. Chance d'avoir eu fait un parcours par ou rapport à la création,
ou s'il aime ça depuis qu'il est tout petit,
ou qui n'est pas savante du tout et qui est simplement intuitive, sensible, raisonner autant qu'il raisonnait dans la relation à cet apparentement.
On part du lieu et on revient au lieu, en fait, par ceux qui l'habitent.
Hein, exactement.
On est d'un heure à l'autre. Sur la question de la programmation, je me posais la question si tu veillais à certains équilibres dans cette façon d'apparenter, comme tu disais, pour faire saison. À un moment ou à un autre, il y a des équilibres qui sont derrière ta tête, sans qu'ils soient présents au sens définitoire. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas ?
Oui, tout à fait. Ce souci-là, au sens foucaldien du terme, le souci de préserver, d'être attention, ce rapport au care, qui finalement, aujourd'hui, est peut-être une manière d'aborder la réalité de notre relation au monde. On est peut-être plus attentif à des formes plus minorées et sur lesquelles on se doit d'apporter une même attention que des grands principes. Je suis vraiment dans un rapport de l'apparentement, c'est ça aussi, d'un souci de ce qui est d'une forme de juste présence. Le centre d'art, son projet, c'est de donner à voir toute la diversité de la création contemporaine, ce qui fait acte de création aujourd'hui. Et cette création, elle se fait aussi bien au coin de la rue qu'en effet au niveau des grands spots de diffusion au niveau national ou international. Et donc je prends plaisir à jouer aussi de ces enjeux-là. C'est aussi lié à un engagement qui, pour le coup, est consécutif à l'attribution d'un label, Centre d'art d'intérêt national. On doit être aussi attentif à ce qui est une forme d'équilibre, de juste présence, ne serait-ce qu'en situation de parité. Mais en même temps, ça se joue aussi à ces endroits-là, c'est-à-dire que, en effet, dans l'équilibre de représentation de ce qui est la créatrice et le créateur, je suis sensible à être dans un rapport d'équilibre sur ces visibilités-là, parce qu'elles sont aussi importantes, parce que finalement, la réalité à la création, elle ne doit pas être endiguée par des problématiques comme celle-ci. Donc ce territoire de responsabilité dont je parlais tout à l'heure, il porte aussi sur ces enjeux-là. Le centre d'art valorise aussi bien les jeunes artistes émergents. On a des principes de résidence territoriale, de résidence d'écriture qui permettent à de jeunes penseurs ou à des jeunes artistes de s'affirmer, de trouver une expérience aussi en termes de professionnalisation, même si je mets ce terme un peu entre guillemets, mais qui est nécessaire de s'aguerrir.
Mais pourtant, c'est ça.
Et le bâtiment, encore une fois, joue pleinement ce rôle-là, parce qu'il est en effet incitateur. Il y a un rapport à la démesure, il faut s'y coltiner, il faut la travailler, il faut la maîtriser, il faut dialoguer avec, il faut se construire avec, et c'est quelque chose qui est vraiment une expérience importante pour ces jeunes créations. Mais en même temps, on va prendre le temps de montrer à des artistes qui ont une notoriété internationale, et puis aussi de revenir peut-être sur quelques figures plus effacées, mais qui sont dans une pratique du contemporain, qui s'inscrit aussi dans un rapport au temps sur 30 ans, 40 ans ou 50 ans de pratique.
Ouais, je pense aussi, Monet, que moi je connais, je trouve bien de leur redonner ça, en fait, cette sorte d'attention, en fait. Oui, comme tu parlais du Caire, je pense que c'est aussi une forme d'attention
tout
réelle.
Tout à fait, ouais. Hein. Après, c'est aussi cette exposition, c'est pour ça qu'elle s'inscrivait en préalable à cette saison, les registres du jeu. C'était la première exposition de ce nouveau cycle, parce qu'elle revenait sur peut-être un regard trop vite établi sur les Simonets. C'était, elle reprenait à rebours, c'était un peu comme le gant renversé, si tu veux, qui donne à voir les coutures de son architecture. Et donc là, l'exposition, et je remercie beaucoup Marthe et Jean-Marie Simonet dans l'accessibilité qu'ils ont donnée sur leur travail, où j'ai pu en effet choisir, prendre, solliciter des œuvres dans l'exposition qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait l'habitude et qui ne correspondaient pas tout à fait à l'univers des stéréotypés un peu parfois des Simonet, tel qu'il s'est construit au fil de 20 ans, 30 ans, 40 ans de pratique artistique. Et donc les registres du jeu, c'était à plein de niveaux différents, revenir aussi sur ce propre jeu qui est celui peut-être du rapport institutionnel ou de ce qui est celui de la critique ou ce qui est celui
de l'histoire de l'art,
pour montrer que finalement il y avait des subtilités, qu'il y avait peut-être aussi des cheminements qui n'avaient pas été envisagés ou pris, mais qui avaient été perçus et pointés par les Simonet au fil de leur parcours. Et c'est en ça que ça me semblait être révélateur de ce qu'on appelle le contemporain, qui est toujours difficile à identifier, c'est que c'est le contemporain, c'est peut-être celui d'un geste vivant, en fait, qui se déploie.
Ah, oui,
il peut se déployer sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Et je pense que Marthe et Jean-Marie Simonet n'ont pas beaucoup varié par rapport aux premières formes et à leur volonté de développer un geste artistique établi à deux, ce qui est un bel exploit à noter aussi. Donc ce principe-là, cette attention portée, elle était aussi dans cette vigilance que l'on doit avoir dans un lieu d'exposition, d'un centre d'art comme celui-ci, où on ne vient pas en effet lénifier des propositions qui sont déjà, qui seraient déjà là et sur lesquelles on viendrait s'y reconnaître, en fait, et que le regard de la création, il est pétri de doutes, il est pétri d'incertitudes, il est pétri de principes de détermination aussi par rapport à l'œuvre. Et c'est ce qui en fait un vrai regard, et que ce regard peut se renouveler aussi, se remettre en jeu, en situation, à chaque instant.
Et de vie. Si on part sur une autre question, que dans les centres d'art, on essayait de ne pas prendre des œuvres, mais de produire. Quelle est ta position par rapport à ça? Parce que je vois qu'il y a des œuvres qui sont produites, comme celle d'Éclat, par exemple, de Cruz Villegas.
Elle en fait partie, en fait. J'aimerais qu'on soit un lieu totalement dédié à la nouvelle production. Et on essaye de le mettre en œuvre le plus souvent possible. Mais tous les projets ne justifient pas forcément des propositions de nouvelles pièces. On est un centre d'art, on n'est pas un musée. Donc on n'a pas un rapport à l'histoire comme peut être celui d'un musée avec l'histoire de l'art et ce principe de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure. Pourtant, on n'est pas un lieu dénué d'histoire. Et que pour mailler ces histoires, c'est vrai que la production des pièces, c'est autant d'étapes franchies, c'est autant d'indices sur une histoire en cours, etc. Donc c'est fondateur de la privilégier dans un rapport à la programmation, au développement d'un projet artistique. Pour autant, on est aussi un lieu où on peut accueillir, parce qu'on a deux espaces d'exposition qui sont, comme je le disais tout à l'heure, muséographiés, qui renvoient vraiment à l'image classique de l'espace d'exposition, où on peut avoir des principes de conservation préventive identiques à ceux d'un musée. C'est aussi la force de l'aménagement du site réalisé par Bruno Godin. On peut tout à fait convoquer des pièces de collection, et on ne s'en prive pas, pour venir tutoyer l'histoire et mettre la création, la nouvelle production en dialogue avec des œuvres qui, elles, ont intégré le champ de l'histoire. Le projet artistique d'Étainerie, il a comme principe, il est borné, je l'ai défini comme ça, à ce qui est de l'ordre de l'actualité qu'on vit tous les jours, de la création contemporaine, mais en point de limite, c'est l'année 1955 qui est celle de la première documenta. En 1955, on repose la question d'une exposition d'art contemporain sur laquelle on peut à nouveau reposer un principe de construction d'une histoire en devenir. Et ça me semble important de la positionner pour l'ouverture du centre d'art, pour Histoire des formes, qui a été la première exposition inaugurale. Les œuvres les plus anciennes dataient de 1955. Et elles étaient situées vraiment
volontairement
là, comme étant une borne historique à partir de laquelle on se détermine. Or, 1955, c'est pas si vieux que ça, c'est encore la mémoire d'un père ou d'un grand-père, et ça reste dans un temps. Peut-être qu'au-delà de 1955, on est dans un temps historique où finalement on n'a plus de mémoire vivante pour nous en parler.
Sur cette idée de production, pour moi, il y a une autre notion, c'est celle en fait du risque.
Oui, évidemment, il y a cette part de risque, elle est prépondérante, et nous, on essaye d'être avec l'équipe technique du Centre d'art dans l'accompagnement du geste. Tout le projet d'Étainerie porte sur la question du geste artistique. Créer les conditions de son émergence, c'est en effet avoir un lieu, un bâtiment, des salles aménagées ou au contraire des salles non domestiquées. C'est être aussi dans l'accompagnement du geste par ce travail de médiation dont on a parlé en direction des publics, dans la diversité des publics, dans la diversité des formulations d'actions qui vont nous permettre d'aller vers eux, confinement ou pas confinement, dématérialisation ou au contraire actions concrètes, ateliers proposés, présence, etc. Et l'accompagnement des artistes, c'est être vraiment dans leur problématique de création, c'est-à-dire à la fois dans un accompagnement technique, de conseils, de retour sur la manière dont le lieu se comporte par rapport à des enjeux comme ça qui peuvent être de l'ordre d'aménagement scénographique ou au contraire d'une conception sonore dans le bâtiment d'Étainerie. On sait que les lieux résonnent, que les lieux ont du caractère, une matière, une architecture comme ça qui est prégnante. Donc on est dans cette aide à la révélation du lieu, à la manière dont il peut se comporter et réagir par rapport à ça. Et puis on est, parce qu'on a aussi une expertise, de par les programmations passées, de par les productions qui se sont suivies, sur des principes de mise en œuvre. On va ainsi pouvoir orienter vers tel ou tel prestation, parce qu'on sait que c'est vraiment intéressant. On va aussi inviter certains artistes à se saisir peut-être d'enjeux nouveaux sur des conceptions particulières. Alors, certains le font, d'autres sont dans une forme d'écoute et de résistance. Il n'y a pas de démonstration non plus là dans ce champ-là.
Donc on voit bien qu'il y a une sorte comme ça de maïeutique qui se fait par le dialogue et qui est instaurée en fait dans le fonctionnement de la construction en fait de l'exposition.
Oui, avec même la possibilité du manque, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des projets qui se travaillent très en amont, certains aboutissent, la plupart, mais certains parfois n'aboutissent pas, parce que les conditions sont peut-être pas encore là ou ne sont pas là du tout, pour plein de raisons différentes.
Ils ne correspondent plus.
Voilà. Donc, et encore une fois, il s'agit de... tout à l'heure, lorsque je parlais de la manière dont se construisaient les saisons et que finalement le titre devenait l'expression finalement de quelque chose qui me revenait en retour de l'appropriation que les artistes déployaient dans l'espace, il y a une forme de pollinisation d'abord qui se met en œuvre, et c'est aussi toute la force du site d'Étainerie. On a un espace où on peut venir... les artistes viennent être, sont hébergés en fait, prennent le temps en fait d'apprivoiser les lieux, les espaces, les ambiances, et donc cette pollinisation, elle se fait dès ce moment-là, et c'est dans la réception finalement des artistes qui viennent découvrir le lieu, qui peuvent y passer une nuit, retourner le lendemain matin, la lumière du matin, en fonction des saisons évidemment, c'est un espace, ça change beaucoup, que finalement l'émergence du projet petit à petit se précise, que son positionnement dans la saison, est-ce que c'est une exposition de fin de saison, est-ce que c'est une exposition d'hiver, c'est vrai que la réalité physiologique du bâtiment, du lieu, aide aussi à positionner, à créer du rythme dans chaque saison, donc on est vraiment sur ces questions-là. Ouais.
Quelles sont tes motivations lorsque tu fais appel à des commissaires?
Parce que tout travail de commissariat est un travail de création à part entière. Une exposition, c'est un objet artistique comme...
Alors ça, c'est très important, parce que c'est pour ça qu'il y a tant d'artistes qui sont aussi commissaires.
Aussi, oui.
Et non, mais c'est,
oui.
Et
là,
très
c'est le
juste
cas avec Samy Engrammeur et l'exposition We Are et la collaboration qu'il a établie avec Guillaume Lasserre. Pour moi, l'invitation au commissaire, elle se fait un peu de la même manière que pour les artistes. Il y a plusieurs contacts qui sont établis, il y a des échanges, il y a des projets qui peuvent avancer vite ou pas, parce qu'ils ont d'autres projets par ailleurs. Et à un moment donné, il y a une cohérence, un apparentement possible entre ce projet, cette proposition de commissariat, et la tonalité d'une saison artistique qui est en train de se déterminer. Voilà, un travail de commissariat, c'est aussi la capacité à générer une diversité dans le regard porté sur la création contemporaine. Il va lui-même choisir d'autres artistes. Et puis je pense que dans l'esprit d'Étainerie, mais je pense que tu en es conscient aussi, il n'y a aucune volonté d'autoritarisme et de parole univoque. Donc ça fait partie du jeu.
Peut-être que ce sera la dernière question et qui n'est pas la moindre. Pour moi, il y a une dimension politique, que ça soit chez Méris en Angioletis ou que ça soit dans l'exposition We Are, qui ne sont absolument pas les mêmes, qui sont deux approches, on va dire, de la vision du monde, comme on dit, hein, différentes. Alors, vraiment, presque, on pourrait dire aux antipodes.
Mais le politique est certainement un élément clé dans la programmation, dans l'identification du projet d'éteindrie. De par le principe qu'une œuvre, c'est encore une fois quelque chose qui s'inscrit dans un rapport historique, une sorte de regard porté, de fenêtre ouverte sur, et que forcément, de ce fait, il y a une dimension politique sous-jacente à chaque acte qui relève d'une création. La singularité des positions des artistes vis-à-vis de l'autre artiste, vis-à-vis de l'histoire de l'art, en fait aussi une posture politique à part entière. Ouais. Donc on est là dans un rapport où le politique est considéré au sens noble, hein, comme une relation au monde, hein, comme quelque chose...
Vision du monde, vision en fait. Du monde, vision du monde, en donc, c'est de le dire un peu banalement, mais bon...
On en est conscient, et encore une fois, ce lieu de monstration qui est un centre d'art, qui est une fenêtre ouverte sur la création contemporaine, est forcément une fenêtre ouverte sur les états du monde. Et les jeux qui peuvent en être établis.
En fait, je pense que c'est parce qu'il y a cette notion où on attend quelque chose, sachant qu'on est de quelque part, et que ce quelque chose peut arriver, et qu'on l'attend, et que forcément, ce qui va arriver, c'est de l'ordre du politique, mais c'est de l'ordre du nouveau, quelque part. Et pour moi, il y a un lien dans cette méthode qui conduit de cette... volonté en fait de mettre en émergence, qui forcément débouche sur du politique, qui n'est jamais rejeté, mais qui du coup, parce qu'il est marqué dans cette espèce de progression, on veut dire de révélation, ne devient pas une sorte de slogan. Oui. Un slogan politique, ou une énonciation politique, ou une prise de position politique. La mise en œuvre de son arrivée, en fait, quelque part, par le biais du travail qui se fait, hein, j'entends, hein, donc du travail de l'artiste qui se fait, le conduit à. Alors, le conduit à le révéler, donc, quelque part, de nous en donner les sources, en fait. Donc, de ne pas être dans un rapport autoritaire par rapport à ce qui est même abouti à l'autre bout. Et ça donne. Ce rapport d'équilibre entre les formes et le discours, qui d'ailleurs se repère déjà dans le titre des saisons, mais se retrouve aussi, par exemple, dans les titres de Samy en Grammeur. C'est exactement la même chose, en fait. C'est à chaque fois, la forme, elle vient pour permettre l'ouverture, pour permettre l'émergence des choses. Et du coup, l'émergence des choses nous conduit au politique, mais un politique qui n'est pas justement le lieu de cette émergence. C'est le lieu, au contraire, du possible que nous donne à voir cette émergence. C'est-à-dire qu'en fait, ce politique n'est pas opérationnel quelque part.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette question-là des possibles et sur la manière peut-être de réarranger le regard, en fait, de le repositionner, de le reconsidérer, ou de le ressentir.
Ou de l'ouvrir.
Ben justement, l'ouverture est la manière de le mettre à l'épreuve, la question du regard. Donc, quand je dis de le ressentir, c'est de le sentir à nouveau, c'est de mesurer l'importance et le poids politique du regard que l'on porte sur les choses, que tout est dans cette ouverture-là et dans ces possibles-là. L'orientation, en tout cas, et la philosophie du centre d'art par rapport à cette question d'émergence, c'est vraiment celle-ci. On ne présuppose pas, autoritairement, encore une fois, ce qui va être de l'ordre de l'émergence, de la forme émergente ou émergée qui apparaît au fil des programmations. Et on en fait juste un pari... subtil, une sorte de promesse possible, et on crée les conditions pour que l'expression ait lieu.